Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Nouveau combat ce lundi entre les FARDC et alliés face au M23 sur plusieurs fronts dans le massif au Nord Kivu. Une bombe est tombée sur Bweremana faisant au moins 3 morts et 1 blessé. Des centaines d'habitants ont fui la zone et ces combats violent la trêve humanitaire qui est à son 10e jour ce lundi, déplorent des sources sur place. Province du Maniema, 7 cas suspects des monkeypox signalés, dont un décès à l'hôpital général de référence de Lubutu. Le médecin directeur de cet hôpital plaide pour l'appui en médicaments pour la bonne prise en charge des malades. Et puis, l'invité de ce midi, Bertin Kalinda, directeur provincial Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métiers. Il nous parle de l'état de ce secteur ainsi que son importance dans une région comme Beni, Butembo et Lubero. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part du Nord Kivu. Les combats opposant l'armée congolaise et ses alliés des groupes armés aux rebelles du M23 sont rapportés ce lundi sur plusieurs fronts dans le territoire de Masisi. C'est notamment dans la chefferie des Bachali et dans les environs de Bweremana, chefferie des Baoundé. Une bombe est tombée dans la matinée sur Bweremana, faisant au moins 3 morts parmi les civils, selon plusieurs sources. Le récit de Bernard Denyangi.
C'est entre 3h et 5h du matin que les rebelles du M23 ont lancé ces attaques simultanées sur les positions de l'armée congolaise et celles des groupes armés locaux dans le territoire de Masisi. Dans la chefferie de Baoundé, des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues entre 5h du matin à 9h locales autour des collines Ndumba, Kioluku, Kiindo, Kashangamutwe surplombant l'axe Bweremana-Chacha. Vers 8h locales, une bombe est larguée depuis cette zone de combat est tombé sur des maisons de civils à Bweremana, faisant 3 morts, tous des enfants mineurs d'une même famille. Un autre enfant a été blessé. D'autres combats sont signalés dans les axes Kaira, Kirumbu, Luama et Kalongé, dans le groupement de Bachali Mokoto et Bachali Kaembe. Dans ces zones, nos sources indiquent que les rebelles auraient incendié dans la matinée des maisons de certaines personnes ciblées, notamment dans le village Butumbalongé. Des centaines d'habitants sont présentement en fuite dans cette zone, prenant la direction du groupement Bafuna vers Masisi Centre. Nos sources dans la zone condamnent ces attaques qui violent la trêve humanitaire de 2 semaines, qui est ce lundi à son 10e jour. Goma, Bernard Denyangi, Radio Okapi.
Par ailleurs, la Fédération des entreprises du Congo FEC, groupement territorial de Butembo Lubero, appelle le gouvernement à s'impliquer pour mettre fin à la rébellion du M23 après la trêve humanitaire annoncée par les États-Unis depuis 6 jours. Polycarp Ndivito Kikwaya, président de cette structure, l'a exprimé hier à Butembo auprès du ministre de l'Intérieur qui conduit depuis samedi une mission d'évaluation de la situation sécuritaire dans la région de Butembo, Beni et Lubero. On écoute le président de la FEC Butembo Lubero dans cet extrait. Très choisi par Sadiq Aboubakar.
Le gouvernement a ses obligations, nous payons les impôts et taxes, qu'ils prennent l'argent, tout l'argent qu'il y a pour que la guerre s'arrête. Après la trêve, les dinars, on ne va plus fuir. Il ne faut pas qu'on soit obligé de fuir. Ça doit s'arrêter. Et il a dit que, heureusement que le vice-ministre de la Défense est là et tous ils sont en train de collecter toutes les idées de la société civile et des professeurs religieux et de tout le monde pour capitaliser ça et prendre des mesures qui seront efficaces pour qu'il n'y ait plus d'erreurs. Il dit qu'il est nécessaire, il est venu écouter et que nous pouvons compter avec Kinshasa, la guerre va s'arrêter. Il faut que Kinshasa fasse un signal de compassion. Nous sommes sinistrés. Les contrôles, oui, nous sommes d'accord avec les contrôles. Il ne faut pas que la province également envoie des taxes conventionnelles sans nous avoir consulté. Tout ça, nous avons dénoncé. Nous avons délié les langues et nous espérons que ça va s'arrêter.
Entre-temps, dans la ville de Beni, malgré des années de guerre et d'atrocité, malgré les déplacements fréquents des populations qui fuient l'insécurité dans leur milieu, la vie n'est pas rose, mais elle est là. Grâce à la résilience des habitants, la ville de Beni sort lentement mais sûrement de la perception selon laquelle on ne vit pas à Beni. Il semble relégué au passé, le temps où presque toutes les activités socio-économiques s'arrêtaient à 17h à cause de l'insécurité. Depuis une année, la vie et l'économie locale reprennent petit à petit leur cours normal. Boutiques, supermarchés, bars et restaurants ouvrent jusque tard dans la soirée, mais la vigilance reste de mise. C'est ce que Sadiq Aboubakar nous raconte dans ce reportage conçu par Jean-Toby Okala.
Nous sommes sur le boulevard Nyamouissi, la principale artère de la ville de Beni. Il est 0h. Certes, la circulation n'est pas intense, mais des quelques voitures sont perceptibles sur le boulevard ainsi que quelques mototaxis. On y trouve même des vendeurs de carburant, communément appelés Kadhafi, au bord de la route. Des années de violences aveugles et d'atrocités ont donné à cette ville de plus d'un million d'habitants une mauvaise réputation. Attentats perpétrés par des rebelles des ADEF, insécurité urbaine, pour beaucoup, il n'y avait plus la vie à Beni, devenu un endroit où l'on ne pouvait plus vivre. Pourtant, le dynamisme des populations et surtout leur résilience ont permis à cette ville de rester debout. À quelques mètres du rond-point Nyamoussi, on trouve à cette heure tardive des restos-bars et dancing-clubs ouverts. Au dancing-club Ishango par exemple, il y a de la vie. En dépit de la guerre et des tueries de masse, nous avons droit à la vie. C'est ce que dit cet homme rencontré au dancing club.
On est en train de se distraire un peu. On est censé de vivre à part des massacres.
Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
En Ituri, deux acteurs politiques, à savoir Danny Unitoun et Oupar Désiré, ont été arrêtés à Mahagi puis transférés hier à Kinshasa par les services de renseignement civil. L'un d'eux fut candidat malheureux à la députation nationale dans la circonscription électorale de Mahagi pour le compte de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Selon des sources de sécurité, ces personnes feraient partie d'un réseau du M23 qui cherche à implanter son idéologie dans la province de l'Ituri. La même source indique que des enquêtes sont en cours pour appréhender tous ceux qui sont impliqués dans la déstabilisation de l'Ituri. Direction la province du Maniema, je vous l'ai dit dans les titres. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Lubutu signale des cas de monkeypox dans cette entité. Docteur Kaleba Kikukama parle déjà de 7 cas suspects avec un décès d'une femme de 30 ans. Ce dernier plaide pour l'appui en médicaments pour la prise en charge des malades. Il exhorte en même temps la population à se rendre à l'hôpital dès l'apparition des signes comme la fièvre et des éruptions cutanées. Docteur Kaleba, joint par Florence Kizalo.
Oui, je confirme qu'il y a des cas de monkeypox chez nous à Lubutu, précisément à l'hôpital général. Chez moi ici, nous avons enregistré 7 cas suspects de monkeypox et parmi lesquels il y a eu un décès d'une dame âgée de 30 ans. Ces cas viennent de la zone de santé de Lubutu Centre, mais aussi dans les aires de santé voisines, dont l'aire de santé qui a une forte prévalence, c'est l'aire de santé de Mundu. La structure prend en charge ces malades, mais nous avons des difficultés par rapport à l'approvisionnement des médicaments. Les malades sont traités par les ordonnances externes. Nous demandons à nos autorités de nous venir en aide, surtout par l'appui des médicaments et les services accrédités du ministère qui est l'INRB, de venir nous aider dans les diagnostics des cas. Parce que la réalité du milieu est que quand on a les cas de monkeypox à l'hôpital, ça veut dire dans la communauté, il y en a beaucoup parce que la majorité vivent avec ces maladies à la maison.
Santé toujours. Au Nord Kivu, toutes les 34 zones de santé de la province sont en rupture des médicaments contre la tuberculose depuis plus de 3 semaines maintenant. Le coordonnateur provincial du programme Lèpre et Tuberculose qui tire la sonnette d'alarme affirme par la même occasion que la situation est alarmante dans les milieux carcéraux sur l'ensemble de la province du Nord Kivu. Il plaide auprès des autorités tant au niveau provincial que national en faveur d'un appui en médicaments pour une bonne prise en charge des malades dépistés et éviter la résistance de cette pathologie chez certains patients. Docteur Biankinzi Kiko explique au micro de Gabriel Ouamenia.
C'est un souci très sérieux. À l'heure où je vous parle, il y a des malades qui ont été dépistés depuis le 3 juin. Ils n'ont pas un traitement. Pourquoi? Parce qu'en province du Nord, nous sommes à reptile de RHZ, qui est la molécule phare pour débuter un traitement de la tuberculose, mais nous sommes à réussir presque partout. Raison pour laquelle nous demandons à toutes les autorités, que ce soit au niveau national, au niveau provincial, de s'impliquer pour qu'on trouve une solution. C'est vrai, on était dans un projet qui est entré, qui vient de se terminer, NMF3, qui avait un récipiendaire principal, Cordet, qui est en train de terminer sa mission. Mais en terminant sa mission, il ne devrait pas laisser sans médicaments. On devrait avoir des médicaments. Maintenant, nous n'avons pas de médicaments par rapport à la prise en charge. Raison pour laquelle on est en train de demander que le niveau national aussi puisse s'impliquer pour qu'on trouve les médicaments. Au total, nous avons 196 cas confirmés de la tuberculose sensible dans la prison de Munzenze. Pour la prison de Beni, nous sommes a 65 cas positifs et dans la prison aussi de Butembo, 21 cas de la tuberculose.
Radio Okapi a tenté en vain d'avoir la réaction des autorités compétentes à ce sujet. Nous nous rendons à présent dans la province du Haut-Touélé. La synergie de la société civile s'est dit inquiète de l'exploitation de l'or par des coopératives assistées des experts chinois et autres dans des sites miniers de cette entité. Cette exploitation, dit-elle, détruit l'écosystème et ne contribue nullement au développement de cette province. En conséquence, elle demande au gouverneur de province de suspendre ses exploitations sur toute l'étendue de la province du Haut-Touélé. Elle demande contenue dans une déclaration publiée ce week-end par toutes les associations de la société civile du Haut-Touélé. Jacques Moukonkolé nous en dit plus.
Cette demande est contenue dans une déclaration publiée ce week-end par toutes les associations de la société civile du Haut-Touélé. Dans ce document, la synergie précise que cette exploitation tant décriée ne contribue ni au développement de la province ni à l'amélioration du vécu quotidien de la population affectée par cette exploitation. Monsieur l'abbé Georges Semende, porte-parole de la synergie de la société civile du Haut-Touélé.
La synergie de la société civile de la province du Haut-Touélé constate l'usage abusif des engins non identifiés, lesquels détruisent les forêts, polluent les eaux, appauvrissent les sols, brisent les ponts, créent des puits non remblayés, causant des morts d'hommes, souvent par noyade. Et la statistique de production de l'or n'est pas maîtrisée.
La synergie se rend également compte que le protocole d'accord n'est pas exécuté et que les exploitants bénéficieraient de la complicité de certaines autorités à Kinshasa. Au regard de ce tableau sombre, elle demande au gouverneur de province de suspendre ses activités sur toute sa juridiction en attendant l'identification de toutes les coopératives et de leurs expatriés. Faute de quoi, des actions citoyennes de grande envergure seront entreprises, prévient-elle. Cependant, le gouverneur de province, Jean Bakomito, n'a pas encore réagi. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Et puis, pour une collectivité qui s'est dit verte et pour une justice climatique, l'ONG Initiative pour le Développement Local IDEL demande à l'État congolais de réduire l'exploitation pétrolière et gazière à Moanda dans le Congo central en mettant fin au forage des nouveaux puits. Recommandation formulée à l'issue d'un atelier d'échange sur la justice climatique avec les membres des organisations de la société civile et les communautés locales venues des villages où les entreprises pétrolières exploitent et explorent du pétrole. Serge Ngimbi, coordonnateur de cette structure, indique que c'est depuis 43 ans que les entreprises pétrolières exploitent dans le territoire de Moanda. Malheureusement, les communautés locales perdent plus qu'elles ne bénéficient. Serge Ngimbi, coordonnateur de l'ONG IDEL, explique dans ses propos recueillis par Nana Plurish Mambo.
Mais 43 ans, on a fait l'évaluation avec les amis ici. 43 ans après, le premier puits, rien n'a changé. Aujourd'hui, ils vivent dans un environnement pollué. L'air pollué, l'eau polluée, la terre polluée. Déjà, il nous a été informé aussi que les femmes, les hommes ont de sérieux problèmes de conception aujourd'hui. Tout ça, il y a beaucoup d'éléments. Et pour une collectivité qui s'est vue verte, c'est-à-dire, nous demandons à l'État de réduire cette exploitation. Réduire, c'est-à-dire de ne plus forer les nouveaux puits. Par exemple, vous avez pour le cas de Saint-Foumou, ils ont 312 puits dans l'eau. Ces communautés-là, ils vivaient de la pêche. On n'est qu'un champ 312 puits. Si un puits a un hectare ou bien combien de mètres dans l'eau, parce qu'à la terre, c'est près d'un hectare. Quand ils ont 50 puits, c'est 50 hectares. C'est-à-dire l'accaparement des terres communautaires. Pour une justice climatique, nous demandons à l'État d'arrêter. On n'est ni pour les entreprises pétrolières, ni contre les entreprises pétrolières, mais nous demandons que l'État puisse prendre des mesures qui va permettre aux communautés d'accéder à leurs droits et de vivre dans un environnement sain pour répondre réellement à la question d'une collectivité verte.
Sud Kivu, la crise au sein du centre de recherche en sciences naturelles de l'UIRO est à son cinquième jour ce lundi. Les travailleurs ont paralysé toutes les activités depuis mercredi dernier suite au conflit qui les oppose au directeur administratif financier à qui ils reprochent le détournement de plus de 6 000 $ et la création d'une milice. Jean Kassami revient sur le climat qui a régné ce matin dans ce centre situé au nord du territoire de Kabare.
Le représentant des travailleurs, Félix Maroy, confirme que les activités restent paralysées jusqu'à ce que le ministère de tutelle se prononce sur la crise actuelle. Le syndicaliste principal revient sur les fautes que les travailleurs reproche au DAF du CRSN Luiro.
Nous reprochons à notre DAF le détournement de plus de 6 000 $, l'acharnement sur les agents, la destruction méchante des infrastructures. Il est également colliniste, corrompu. Il divise également les agents. Notre DAF a recruté des gangs que nous analysons comme une milice.
Le DAF, lui, minimise l'ampleur de la grogne des agents qu'il assimile à un simple effet de jalousie. Paul Ngabo.
Le CRCN est calme, il n'y a pas de problème et le travail évolue bien. Je reste juste serein. C'est le gouvernement qui m'a mis en place. Je dois justifier par ma compétence et toutes mes qualités. Ces conflits sont liés à la haine, à la jalousie, à la calomnie. Juste pour me déstabiliser et salir ma personnalité, je n'étais pas lâché.
La réponse aux multiples correspondances adressées au ministère des titelles par le parti en conflit tranchera qui a tort et qui a raison. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Actualité internationale. Au Nigeria, une école s'est effondrée ce week-end pendant des examens. Au moins 22 élèves sont morts. Le collège Saint-Académie, situé dans l'état du Plateau, s'est effondré peu après l'arrivée des élèves, dont la plupart avaient 15 ans au moins. Au total, 154 élèves ont été piégés, mais 132 ont pu être secourus et sont soignés dans divers hôpitaux, selon le porte-parole de la police de l'état du Plateau. La cause de l'effondrement n'a pas été clairement établie, mais selon des habitants, cela est survenu après 3 jours de fortes pluies. Les autorités de l'État du Plateau ont attribué cette tragédie à la faiblesse de la structure de l'école et à sa proximité avec une rivière.
L'invité.
Nous recevons le directeur provincial Nord Kivu 2 de la formation professionnelle et métiers. Bertin Kalinda parle de l'état de ce secteur, souvent mal perçu par certains, mais aussi de son importance dans une région comme Beni, Butembo et Lubero. Il est avec Guylaine Kassassia.
Berthe Kalinda Salongo, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Qu'attend-on par formation professionnelle et quelle est son importance?
La formation professionnelle est juste un secteur qui se focalise sur l'apprentissage de métier. Et cet apprentissage de métier revêt un caractère important dans le secteur de la vie nationale parce qu'il nous permet à la fois de former des créateurs d'emploi et non des demandeurs d'emploi.
Oui, alors, quel état des lieux faites-vous de ces secteurs dans la région de Beni, Butembo et Lubero?
Et la formation professionnelle dans la région de Beni, Lubero et Butembo a commencé effectivement avec beaucoup de difficultés, mais nous sommes en train de nous y mettre pour essayer de mettre chaque chose à sa place. La première grande mission était de vouloir installer d'abord le service en question. Nous avons connu assez de difficultés avec d'autres services frères au sein de l'administration publique parce que, comme vous le savez, la formation professionnelle était organisée d'une manière disparate. Certains des centres dépendaient, je ne sais pas, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Jeunesse, du ministère de la Culture et des Arts. Mais avec la réforme initiée par la plus haute autorité du pays, il a plié à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à qui je rends un vibrant hommage, de pouvoir créer un ministère à part entière pour le secteur de la formation professionnelle. Et pour le moment, au niveau de la région de Butembo, Beni, Lubero, nous pouvons nous frotter les mains parce qu'au moins nous avons déjà des structures que nous avons déjà créées qui sont capables d'assurer une bonne formation à notre jeunesse. Donc nous avons déjà des centres de formation professionnelle qui sont agréés par l'État congolais. Et bientôt, nous sommes en processus maintenant parce que avec les établissements publics, il faudra que les formateurs, les directeurs de ces centres soient pris en charge par le Trésor public. Et pour votre information, nous dirons que le premier lot de centres de formation professionnelle est arrivé à Butembo, déjà mécanisé par l'État congolais. Il ne reste maintenant que l'argent soit disponible pour que ces gens puissent bénéficier déjà de l'argent. Donc sur le plan organisationnel, nous espérons que dans les jours qui suivent, la formation professionnelle va se vêtir de sa plus belle robe.
Plusieurs personnes, en majorité des jeunes désœuvrés, bénéficient souvent de formations professionnelles dans plusieurs domaines de la région. Quel suivi faites-vous de ces formations et de personnes formées?
Pour ceux-là qui sont formés dans les différents centres de formation professionnelle, ils reçoivent vraiment une formation de qualité et au terme de leur formation, ils sont toujours certifiés. Le gouvernement congolais s'est résolument engagé pour devoir créer un guichet unique de formation professionnelle. Et nous essayons, tant bien que mal, de mettre en place, comme nous avons un service qui s'occupe de la réinsertion, ce service essaie de suivre de plus près ces jeunes gens qui ont été formés.
Peut-être pour finir, aujourd'hui, quelle valeur donnez-vous à un certificat de fin de formation professionnelle? On sait que pour plusieurs parents et même certains jeunes, la formation professionnelle passe souvent pour de personnes qui n'ont pas fait de longues études pour devenir ingénieur, journaliste, médecin, etc. Pourquoi la formation professionnelle a-t-elle une mauvaise presse auprès de la population?
Effectivement, si la formation professionnelle a une mauvaise interprétation, pourquoi? Parce que vous savez, le système éducatif congolais a mis un accent particulier sur ce que nous appelons l'enseignement théorique, l'enseignement général pour former des gradués, des licenciés, des docteurs, des médecins, ainsi de suite. Mais le fort malheureusement est de constater que, au terme de leur cursus universitaire, ils sont toujours voués au chômage. Contrairement à la formation professionnelle que nous attendons de ceux-là que nous venons de former à devenir immédiatement des créateurs d'emplois. Et en plus de cela, le certificat dont vous faites allusion, madame, le certificat offert par le ministère de la formation professionnelle, je vous dirais que ce certificat est devenu internationalisé. Même si vous allez à l'extérieur, l'UNESCO s'est engagé à vouloir valoriser ce même certificat au même titre que nos diplômes d'État que nous délivrons en République démocratique du Congo.
Bertin Kalinda Salongo, merci.
C'est moi qui vous remercie, madame.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.